message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Nous avons vu que un épisode de l'écriture du peuple d'Israël, particulièrement d'un roi qui s'appelait Ézéchias, un roi qui, d'après l'écriture, il ne s'est pas levé en Israël un roi qui soit aussi bon que ce roi-là. Amen. Ézéchias est un des grands rois d'Israël qui a eu cet honneur et ce privilège parce que Dieu l'a appelé à cela, à restaurer le nom de l'Éternel dans le peuple d'Israël. Je voudrais vous rappeler brièvement les choses qui se sont passées. Ézéchias, il nous est dit qu'il avait environ 25 ans quand il commença de régner. Mais voilà, c'est un miraculé, c'est un homme qui sur qui la main de Dieu était puissante parce que Dieu l'a protégé. Parce que avant qu'il vienne comme roi sur le royaume de Juda, il avait un père et un père qui n'était pas un père recommandable. Akaz, c'était un des pires rois d'Israël avec Manassé. Il a introduit en Israël un grand temps d'apostasie. Il a, malgré l'onction royale qui était sur sa vie, il a dévié, il est rentré dans une grande idolâtrie. Et dans ce temps-là, en Israël, et surtout dans le royaume de Juda, parce que je vous fais souvenir à nouveau que à cette époque-là, il y avait déjà le schisme en Israël. 10 tribus étaient montées vers le nord et 2 étaient restées dans le sud. C'était Juda et Benjamin, près de Jérusalem, alors que les 10 autres s'étaient séparés après le problème des fils du roi Salomon, Roboam et Jéroboam. Il y a eu schisme en Israël et 10 tribus sont montées vers le nord et 10 tribus ont commencé à rentrer dans une profonde idolâtrie. Ayant abandonné le temple de Jérusalem, Jéroboam a voulu imiter la maison de l'Éternel. Et il avait, dans le pays du nord d'Israël, les 10 tribus avaient fonctionné sous un mode de religieux qui n'était pas celui que l'Éternel avait commandé. Ils avaient fait une sacrificature spéciale, qu'ils appelaient ça les Kamarim, au lieu d'appeler les Lévites. Ces Kamarim, je me souviens de vous avoir dit, leur particularité, c'est qu'ils étaient vêtus de noir, n'est-ce pas? Et ils avaient fait 2 veaux d'or, un à Bethel et l'autre à Dan. Et les 10 tribus d'Israël venaient à adorer le veau d'or. Et je vous ai dit dimanche dernier, le veau d'or, il est tenace. Depuis Moïse et la sortie d'Égypte, ce veau d'or, il a toujours été quelque part dans le cœur d'Israël, et surtout des idolâtres en Israël. Le veau d'or, c'est quelque chose, vous vous souvenez ce que a fait Aaron, il a fondu tout l'or en une masse. Une masse uniforme, pour faire une représentation d'un veau, comme si Dieu, on pouvait le représenter au travers d'un veau. Dieu que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, voilà qu'on le fait sous forme d'une image d'un veau d'or. Et on dit maintenant, adorez ce veau d'or. C'est d'une idolâtrie. Souvenez-vous que Dieu a été irrité quand Moïse est descendu de la montagne au bout de 40 jours et que Moïse a entendu des danses et des chants dans le camp d'Israël. Ils étaient en train de faire la fête au veau d'or. Le veau d'or, c'est l'uniformisme, c'est pas l'unité. Le veau d'or, c'est la religion où tout le monde est pareil. C'est pas la vie de l'esprit. Le veau d'or, c'est nous rentrons dans des pratiques religieuses répétitives, avec des prières répétitives qui sont toujours les mêmes. Il n'y a plus la vie de l'esprit. On est en train d'adorer un autre Dieu. Le veau d'or, c'est l'uniformisme. Tout le monde est pareil. Akaz, lui, non seulement il a introduit cette idolâtrie, mais encore, il avait encore poussé le peuple à adoré le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué dans le désert. Il avait la vie dure, celui-là aussi, ce serpent d'airain. Mais il n'y avait pas que ça. Il avait littéralement pillé la maison de l'Éternel. Il en avait même fermé les portes. Il n'y avait plus de culte à Jérusalem. Et ce roi-là, qui était un roi abominable, il avait une habitude malsaine, criminelle, de sacrifier ses fils dans le feu à Moloch, au dieu Moloch. Frères et sœurs, quand se lève un tel roi en Israël, qui est en train de se lever contre eux, la loi de Dieu, les commandements de Dieu, il y a deux solutions. Ou Dieu agit et le jugement tombe sur le peuple, ou Dieu alors va susciter un sauveur. Il va faire en sorte que son peuple revienne à lui. Et c'est ce que Dieu va faire. Si Akaz avait sacrifié ses fils par le feu au dieu Moloch, il y en avait un qui a réchappé. Et j'appelle Ézéchias le miraculé de Dieu. Vous savez, quand Dieu il a une intention envers quelqu'un, il le gardera. Il le gardera pour le salut, il le gardera pour l'appel. Quand Dieu il a une intention avec quelqu'un, il va faire en sorte de le garder. Et seul Ézéchias a réchappé à la folie meurtrière de son père. Ézéchias a été gardé par Dieu. On voit dans l'Écriture des hommes d'une telle trempe gardés par Dieu, Moïse sauvé des eaux, et j'en passe, des Joseph par exemple aussi, et puis des Joas, etc. On en a toute une pléthore dans l'Écriture, qui est, comme Athalie, cette folle d'Athalie qui voulait éradiquer la semence de Judas. Vous vous rendez compte, l'idée d'Athalie, elle voulait faire disparaître la semence de Judas. En fait, elle voulait, par ce biais-là, faire disparaître cette tribu d'où devait sortir le Messie. C'est de la folie. Et vous croyez que Dieu est surpris par de tels hommes ou de telles femmes? Dieu a toujours un plan. Il a toujours quelqu'un qu'il garde en réserve. Comme il a gardé Ézéchias. Et comme Akaz, après avoir fait des choses abominables, il nous est dit qu'il brûla ses fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et même, il faisait fumer l'encens sur tous les hauts lieux. Alors que Dieu avait dit que l'encens et l'autel des parfums devaient être dans le lieu saint, voilà qu'il a commencé à faire n'importe quoi. Voilà comment on bricole dans l'église, comment on commence à faire n'importe quoi dans l'église quand on n'est pas dirigé par la sainte règle de Dieu. L'église, elle peut devenir folle. Elle peut s'adapter à ses pensées et vouloir diriger les serviteurs de Dieu, vouloir diriger l'église comme ils le pensent. Je vous dis que ça, c'est une grave erreur. On ne dirige pas une église comme nous le pensons, mais on le dirige selon l'Esprit de Dieu, selon les commandements de Dieu, selon les règles de sainteté de Dieu. À sa mort, il n'a même pas eu le droit d'être enterré avec les autres rois d'Israël, tellement qu'il avait été mauvais. Mais pas seulement ça, il avait fait des alliances avec le roi d'Assyrie, il avait fait en sorte que de donner l'or et l'argent du temple au roi d'Assyrie pour que l'autre il le garde en cas de guerre avec d'autres nations. Il avait fait n'importe quoi. Vous savez, pour des choses beaucoup plus bénignes, Dieu a envoyé son peuple en déportation, hein. Et chaque fois qu'Israël a été envoyé en déportation, c'est chaque fois qu'Israël était en train de transgresser les lois de Dieu. Mais Dieu n'envoie pas les gens en déportation ou un peuple en déportation sans en avoir averti une fois, deux fois et trois fois. C'est pour ça qu'il envoyait ses prophètes. C'est pour ça qu'il avertissait. Et peut-être que Dieu t'avertit dans ta vie. Une fois, deux fois, trois fois, Dieu t'a averti sur des choses de ta vie et tu n'en as pas pris garde. Et quand la chose arrive, tu te demandes pourquoi ça t'arrive. Alors voilà, Ézéchias arrive. Il est âgé de 25 ans. Vous savez, 25 ans, et si vous êtes à la tête d'un État à 25 ans, imaginez qu'il y a un président de la République à 25 ans en France, avec la crise financière qu'il y a. Je le plains, comment il ferait cet homme pour diriger son pays? Vrai ou pas? Et Israël a toujours eu autour d'elle des nations ennemies qui l'entouraient, les Philistins, les Amoréens, les Amalécites, les mêmes qui aujourd'hui entourent Israël, c'est pareil. Mais c'est ce jeune homme, ce roi Ézéchias, à l'âge de 25 ans, le premier mois de la première année de son règne, la première chose qu'il fait, c'est qu'il voit que la maison de l'Éternel est en ruine et maintenant il veut qu'elle soit restaurée. Je vous ai dit cette chose dimanche dernier. Cherchez. Quoi? Premièrement, quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Et c'est ce qu'il va faire. Ce roi va appliquer ce principe que Jésus a donné plus tard. Mais la première chose qu'il fait, c'est au lieu de regarder avec les alliances politiques ou regarder sur le plan social comment était son peuple, la première chose qu'il fait, c'est qu'il a ce désir dans son cœur de voir la maison de l'Éternel être à nouveau restaurée. Je te pose la question ce matin. Quelle place a dans ton cœur l'Église? Est-ce que c'est un lieu où tu viens de temps en temps? Oh tiens, c'est pas mal dans cette église. C'est pas le Club Med, hein, tout de suite. Hein. Non, non, c'est pas le Club Méditerranée, l'église. C'est pas un lieu où on vient se faire plaisir, l'église. C'est un lieu où on vient adorer. On vient louer. C'est un lieu dans lequel on vient exercer son appel. C'est un lieu dans lequel on a sa place. Parce que ce n'est pas le pasteur qui met à sa place, c'est Dieu. Dieu qui met à sa place chaque membre là où il veut. Nous avons vu ça jeudi dans l'école biblique. Distribuant les dons comme il veut. Et si tu as un regard bienveillant sur l'Église, tu verras une prospérité dans ta vie. Maintenant, si tu considères l'Église comme un ramassis de gens sur lequel tu poses ton regard pour critiquer les uns et les autres, tu as loupé le but. Ne crois pas, Église, que tu sois parfaite. Mais crois simplement que tu es en marche vers cette perfection. Et que nous aurons toujours à nous regarder les uns les autres et avoir nos défauts. Mais nos défauts sont couverts par quoi? Par l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, nos défauts, ils ne devraient pas constituer des murs de séparation. Au contraire. Dans ton amour pour moi, tu prieras pour moi. Et tu ne me critiqueras pas. La critique ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Elle vient de la chair. Il posa son regard sur les portes de la maison de l'Éternel. Et moi, j'aime bien cela. Quel regard poses-tu sur l'Église du Seigneur? Je te dis tout ce matin, tout de go, l'Église du Seigneur n'est pas une église de spécialité. Nous voyons dans nos églises et dans les mouvements des gens qui se spécialisent dans les choses de Dieu. Alors, vous voyez des églises, ils ne font que de la louange, mais ils n'ont pas la parole. Vous voyez des églises qui font que de la délivrance, et ils ne vivent pas la parole. Et nous voyons, mais dis donc, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est qu'elle est conduite par l'Esprit et qu'elle accomplit ce que l'Esprit lui dit. Et si tu n'es pas soumis à l'Esprit de Dieu, ne compte pas que les choses vont se passer comme tu le désires. L'Église, elle est conduite par la tête du corps qui est le Christ. Vous dites amen, non? C'est pas la peine, ne le dites pas, si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Bien sûr que le corps, il a une tête. Tu as une bonne tête, toi, Didier. Hein? Mais tu as un corps aussi. Et c'est ta tête qui dirige ton corps. Ok? Ancienne est l'Église. Et si tu crois que l'Église, elle peut fonctionner sans la tête, tu te trompes. Et si le corps, il veut faire ce qu'il a envie de faire, il se trompe. Parce que c'est la tête qui dirige le corps. On dit quoi? Amen. Oh là là, vous savez, dans les corridas, c'est mieux que ça. On dit quoi?
Amen.
Ah, c'est meilleur. Et encore, c'est pas... Vraiment, vous êtes endormis. On dit quoi?
Amen.
Ah, que c'est bien. Il va poser son regard sur les portes. Pourquoi les portes? Vous savez, si les portes de la maison de l'Éternel sont fermées, qui peut rentrer dans le salut? Il va regarder les portes, il est dit. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Et ce matin, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Un petit verset biblique, c'est pas grand chose, vous allez voir, mais qu'est-ce qu'il contient dedans? C'est dans le livre des Proverbes. Et je vais vous le donner tel que je l'ai reçu ce matin. Proverbe 8. Regardez ce que dit le Proverbe 8, verset 34. Bienheureux qui? L'homme ou bien sûr la femme? Qui m'écoute. Veillant à quoi? Veillant à mes portes. Tous les jours gardant les poteaux de mes entrées. Et qu'est-ce que ça veut dire cela, frères et sœurs? Bienheureux l'homme et la femme qui ont sur le cœur l'Église du Seigneur. Qui veille sur les portes de l'Église du Seigneur. Veiller sur la porte de l'Église ici, c'est de faire attention de ne pas faire entrer n'importe quoi dans l'Église. Et cela demande de notre part un amour pour la maison de l'Éternel, un amour pour l'Église. Sinon, on va mettre ici une hôtesse d'entrée. On vous ouvrira la porte pour entrer. Entrez, vous allez voir, on est bien ici. Entrez. À la fin du culte, vous aurez une boisson fraîche. Heureux celui et celle qui garde les portes. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu gardes les portes de l'Église? Est-ce que tu as à cœur l'Église? Est-ce que tu es comme l'épiscope, le surveillant, qui surveille pour voir qu'il n'y ait pas de désordre dans l'Église? Quand tu ouvres la porte chez toi, c'est qu'on a sonné à la porte, n'est-ce pas? Et souvent dans nos maisons, chez moi j'ai par exemple un petit écran qui me dit qui sonne à mon portail. Et vous, chez vous, vous avez un Judas, non, n'est-ce pas, à vos portes pour voir qui c'est qu'il y a derrière. Et si la personne qui est derrière, tu la connais, tu vas ouvrir la porte. Mais si tu la connais pas, tu diras qui c'est? Eh bien, dans l'Église du Seigneur, frères et sœurs, il faut faire attention qui entre dans l'Église et qui sort de l'Église. Parce que Paul dit qu'il s'introduira au milieu de nous des loups ravisseurs, des hommes et des femmes qui viennent épiller notre liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons une façon de vivre les cultes conduits par l'Esprit de Dieu. Et il y a des gens qui viennent nous voir pour voir comment que ça se passe ici et qui sortiront peut-être en critiquant ce que nous sommes en train de vivre. Ils viennent épiller notre liberté. Je te le dis, mon frère, ma sœur, qu'il faut que tu aies l'œil de Dieu dans l'Église. Nous protégeons les uns les autres. Nous nous supportons les uns les autres. Nous nous portons les uns les autres. Et c'est ça l'amour fraternel, comme l'amour de Dieu. C'est que l'Église, c'est quelque chose qui doit être sur ton cœur. La maison de Dieu, c'est quelque chose qui doit être sur ton cœur. Tu dois chérir l'Église comme Jésus chérit son épouse. Mais seulement, on n'a pas cette dimension. Je continue. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes, tous les jours gardant les poteaux de mes entrées, car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie et acquiert la faveur de la part de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi fait du tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. L'Église du Seigneur est un lieu de restauration. L'Église du Seigneur est un lieu de liberté. L'Église du Seigneur est un lieu de guérison. L'Église du Seigneur est un lieu de délivrance. L'Église du Seigneur est un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu de salut. L'Église du Seigneur, elle doit enfanter les âmes avec le Seigneur. Il y en a marre de jouer à l'Église religieuse. Ézéchias, il avait un cœur pour Israël, mais il avait surtout un cœur pour la maison de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, si ta foi est dans ce retour du Seigneur, cet enlèvement de l'Église, tout ton cœur sera prédisposé pour aimer l'Église du Seigneur. Tu peux pas être enlevé avec le Seigneur si tu n'aimes pas l'Église. Dieu le sait. Et si tu es dans une église dans laquelle tu es et que tu dis « Oh, mais le Seigneur va m'enlever » et que tu as un cœur qui n'est pas droit devant Dieu vis-à-vis de tes frères et tes sœurs, fais attention, hein. Fais attention, il y aura de grandes surprises à l'arrivée. Un amour pur et sincère, dit Paul, un amour sans hypocrisie, sans hypocrisie, un amour pur, dans l'église du Seigneur. Comme Ézéchias avait cet amour pour la maison de Dieu. Il n'avait qu'un désir de voir les portes ouvrir et le culte, le vrai culte rétabli dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as le désir de voir un vrai culte en esprit dans l'église du Seigneur? Non pas les artifices des hommes, non pas l'organisation humaine, mais la véritable inspiration de l'Esprit qui va mener l'Église à louer et adorer en Esprit, avoir une parole puissante par l'Esprit de Dieu, avoir toutes les activités spirituelles de l'Église conduites par le Saint-Esprit. L'intelligence de ce jeune roi fut de mettre le Dieu vivant à la première place dans sa vie et dans la vie du peuple. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu, il va vous enseigner, il va vous prêcher jusqu'à ce que vous compreniez que le Seigneur doit avoir la première place dans votre cœur et que l'Église, elle doit avoir la première place dans votre cœur. Et l'Église, je parle d'une Église dans laquelle tu es, où tu connais tes frères. Je ne te parle pas des églises où tu vas poser tes fesses tous les dimanches à une église différente, où tu n'es même pas à ta place, parce que le Seigneur veut que tu sois à une place qu'il a préparée d'avance pour toi. Tu comprends, ça, ce n'est pas l'église de Dieu, ça. Tu sais, les chrétiens essuie-glaces qui vont d'une église à l'autre pour essayer de résoudre leurs problèmes. Mais tu ne peux résoudre ton problème que dans l'amour de Dieu et dans l'amour que Dieu a placé dans son église. Tu ne peux résoudre ton problème là où il y a ta place. Faut cesser, quoi. On joue pas à l'église. On se sert pas de l'église. On est soumis à Dieu. Son premier regard en dit long sur ses intentions. Il pose son regard sur la maison de l'Éternel. Et je te dis ce matin, mes frères, mes sœurs, aimez-vous l'Église? Amen. Vous voyez, j'entends qu'une voix, c'est ma femme. Est-ce que vous aimez l'Église? Ou tu te sers de l'Église? Je suis en train de vous dire des choses qui sont des choses tellement sérieuses, tellement puissantes dans l'esprit. Des choses qui doivent changer nos mentalités. Il faut que ça change là-dedans. Que ta pensée religieuse devienne une pensée spirituelle par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que ça change. Il nous est dit qu'il ouvrit les portes et les répara. À nouveau, nous pouvons pénétrer en la présence de Dieu. À nouveau, le vrai culte peut se dérouler. Les portes sont ouvertes et rétablit le vrai culte. Et puis, quand il restaure la maison, c'est-à-dire que ce roi, hein, il va à nouveau remettre de l'ordre, l'ordre divin dans la maison de l'Éternel. Chaque chose a sa place, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et s'il a dit, tu mets l'autel là, tu ne le mets pas là-bas. S'il a dit, tu mets la cuve là, tu la mets pas là-bas. Regarde, il dit, mets l'autel des reins ici. Mets l'autel des holocaustes ici et mets la cuve des reins ici. Ok? Si toi, tu dis non, moi je vais adapter ça à ma façon. Je vais prendre la cuve et je vais la mettre avant l'autel. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que tu es en train de tout bouleverser le plan de Dieu. Parce que c'est à un seul endroit que tu peux rencontrer Dieu. Ce n'est pas au baptême. C'est à la croix. Et ensuite, il y a le baptême. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas adapter la parole de Dieu à tes pensées et à tes doctrines personnelles. La parole, c'est la parole. C'est la parole immuable de Dieu. C'est la parole éternelle de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur, mais mes paroles ne passeront point. Alors il va mettre de l'ordre, il va rétablir le culte, il va mettre l'autel à sa place, la cuve des reins à sa place, il va dans le lieu saint mettre la menorah, c'est-à-dire le chandelier à gauche, devant la table de peine proposition, derrière l'autel des parfums, ensuite le ridio du lieu très saint et à l'intérieur, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance. Une fois la maison de Dieu rétablie dans son fonctionnement tel que Dieu l'avait montré à Moïse sur la montagne, au sujet de laquelle Dieu avait dit à Moïse, « Fais selon le plan qui t'a été montré sur la montagne, sous peine de mort !» Parce qu'il ne fallait pas qu'un iota de ce que Dieu avait montré à Moïse manque. Parce que si tu quittes un iota à l'œuvre de Christ, tu n'as plus le salut. Une fois que le lieu de culte est restauré, maintenant le roi va dire, la parole du roi, hein? La parole du roi, elle va être écoutée. Pourquoi? Parce que le désir du roi, c'est de faire la volonté de Dieu. Et quiconque fait la volonté de Dieu, dit le Seigneur, voici mes frères, voici mes sœurs, voici ma mère, voici mon père. Si tu fais la volonté de Dieu, attends-toi à ce que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Nous ne pouvons pas en prendre à la légère les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu. Ils sont saints. Ils sont le reflet de la pureté, de la sainteté de Dieu. Comment moi je vais prendre ces choses-là avec mes mains impures et je vais commencer à m'amuser avec les choses de Dieu? Alors il va donner l'ordre, il va dire, il est dit, il fit venir les sacrificateurs et les lévites, il va les assembler sur la place orientale et leur dit, écoutez-moi lévites maintenant, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et jetez les souillures hors du sanctuaire. Nous devons rétablir le vrai culte dans l'Église et sortir hors de l'Église tout le péché de l'Église, dehors les adultères, dehors les compromis, dehors les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais qui aujourd'hui a le courage de mettre quelqu'un dehors ? Oh, tu manques d'amour ! Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça a à voir avec la justice de Dieu, ça. C'est pas tout à fait pareil. Maître, pourquoi ? Parce que si tu laisses dans l'église le péché, tu sais ce qui va se passer ? Les enfants qui sont là, ils vont voir le péché dans l'église, et quand ils seront grands, ils vont faire pareil, et ils diront, mais puisque eux l'ont fait, pourquoi nous on ne le fait pas, et pourquoi on ne nous accepte pas dans l'église ? Nous devrions avoir honte de faire des compromis dans nos églises, où on accepte le concubinage, on accepte les adultères. Mais tu ne commettras pas d'adultère, et bien le commandement de Dieu, ou je me trompe ou pas ? Est-ce que je me trompe ? Tu ne commettras pas d'adultère en lapidant les gens à coups de pierre sous la loi de Moïse. Dans l'église, ah, tu manques d'amour. Tu manques d'amour. Un peu de levain dans toute la pâte et toute la pâte va lever si tu laisses ça dans l'église. Donne aux frères et aux sœurs, à ces personnes, l'occasion de se repentir. D'accord, va, trouve-le, dis-lui. Bon, allez, tu es dans un état de péché, mon frère, ma sœur. Mais rectifie ta voix. Si elle t'écoute, c'est bien. Matthieu 18. Si elle ne t'écoute pas, va avec deux ou trois témoins. Redis-lui les mêmes choses. Mais si elle ne t'écoute pas encore, dis-le à l'église. Et si cette personne n'écoute pas l'église, qu'elle soit mise dehors et qu'elle soit comme un publicain et un homme des nations. Ah, c'est Jésus qui le dit. Quand est-ce que nous aurons le courage de faire ce que Jésus nous demande ? Dans l'église du Seigneur, il n'y aura rien de répréhensible. L'église du Seigneur, elle sera pure, sans tache, sans ride. Et c'est de ma responsabilité, ta responsabilité, de ne pas tolérer le péché dans l'église. Il va dire, aux Lévites, allez, sanctifiez-vous et sanctifiez le sanctuaire et ôtez toutes les souillures de l'église. Quand l'église, elle aura retrouvé un saint service devant Dieu, quand l'église, elle aura rétabli devant Dieu le vrai culte et de vrais serviteurs, alors elle sera en capacité de jeter dehors les souillures. Maintenant, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et jetez la souillure hors du sanctuaire. Le premier impératif, c'est que toute souillure soit extirpée de nos vies et celle de la vie de l'Église. Comme cela s'est produit pour les Lévites, sanctifiez-vous. Et pour le sanctuaire, ôtez la souillure hors du sanctuaire. Ici, nous comprenons qu'il est question d'extirper toutes les souillures du temple de l'Esprit que nous sommes. Nous avons oublié que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Paul va dire, si quelqu'un souille le temple de Dieu, le temple en esprit que nous sommes, Dieu le détruira. Ben nous avons oublié toutes ces choses, n'est-ce pas ? On a fait une foi à notre mesure, une foi qui ne nous dérange pas trop, une foi qui nous permet de faire beaucoup de compromis avec le monde et dans lequel on n'est pas engagé totalement dans notre cœur avec les choses de Dieu. On ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On ne recherche pas premièrement de voir l'Église, notre Église. Parce que quand j'appelle l'Église, c'est mon Église parce que je suis l'épouse du Seigneur. Oui ou non ? Dieu jugera les pensées de chacun. Et si nous comprenons qu'il est question d'extirper toutes les souillures du temple de l'esprit que nous sommes, aucune forme d'idolâtrie ne peut être entretenue dans nos cœurs. Quand l'Église est capable de remettre de l'ordre, quand l'Église est capable à nouveau de mettre chacun à sa place, avec l'aide de l'Esprit, de rétablir un culte en esprit, comme Dieu veut, alors nous voyons la main de Dieu sur l'Église. Souvent, Dieu ne peut pas agir parce que nous ne sommes pas dans les conditions dans lesquelles Dieu voudrait agir pour nous. Des fois, tu demandes des choses à Dieu dans ta propre vie en disant, Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es dans les conditions pour que Dieu te bénisse? Il n'est pas question d'obéir à Dieu par crainte. Il n'est pas question d'obéir à Dieu parce que le prédicateur veut dire si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas avoir la tête tranchée. Il est question que tu obéisses à Dieu par amour. Tu n'as pas compris ça encore? Ces commandements ne sont pas lourds à porter car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit Paul. Et si aujourd'hui, sous la grâce, tu peux vivre, hein, écoute-moi bien, si tu peux avoir la vie sous la grâce, c'est parce que Dieu, par le Saint-Esprit, te donne de pouvoir avancer. C'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez-vous, ce roi Ézéchias, il a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est pas fini, et c'est qu'au départ de ce temps de restauration, parce que j'ai intitulé cette prédication hein, « Des ténèbres à la lumière ». Et comme il nous est difficile de trouver des fois des sujets pour les prédications que nous sommes en train de vous prêcher, c'est des fois, ça nous passe du temps pour avoir le bon titre. Un autre grand principe nous est indiqué clairement, c'est l'obéissance. Les Lévites ont obéi au commandement du roi. Il nous est dit que Ézéchias, il avait fait comme David, son père. C'est la référence à David, le premier roi d'Israël. C'est un père pour tous les autres rois qui sont venus après lui, mais qui craignaient l'Éternel et qui marchaient dans ses commandements. Ainsi, Ézéchias était dans cet état d'esprit. Il avait cet amour pour Dieu et pour sa maison. Ce principe spirituel donne l'occasion à l'Éternel de nous conduire plus loin dans son projet de restauration et un retour vers lui. Le réveil commence par nos vies et ensuite est communiqué à l'Église. Peut-être même dans notre propre foi, nous avons tourné le dos à notre Dieu, parfois même sans nous en rendre compte. Mettre nos vies en règle, tel est le principe fondamental d'un vrai réveil. Qu'est-ce qui traîne dans ta vie comme péché dans ton cœur, qui empêche Dieu de faire son œuvre en toi? Quelles sont les fautes qui sont cachées en toi, que tu as enfouies, que tu n'as jamais dites, parce que tu les trouves trop horribles à les dire? Mais je vais te dire ce matin, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Le problème, c'est le péché. Tu crois avoir fait des péchés extrêmement graves, que tu as honte de les dire. Moi, je te dis, tu ne sais pas jusqu'où la nature humaine pécheresse peut aller dans le péché. Tu ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Au cours de nos années et nos années de services pastoraux avec mon épouse, on en a entendu des confessions. Et on a été des fois même nous-mêmes surpris d'entendre ce que nous avons entendu complètement effaré. On n'aurait jamais imaginé que ça aille jusque-là, quoi. Mais si tu veux être libéré dans ton cœur, si tu veux être délivré dans ta vie, ouvre ton cœur, confesse ton péché, et le Seigneur te délivrera. Il appliquera son sang sur ta vie, il te purifiera, il te donnera un autre objectif. Tu ne seras plus sous la condamnation, tu ne seras plus sous la culpabilité parce que Dieu te délivre de ces choses-là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit du Seigneur. Tu as bien compris ? Non selon la chair, mais selon l'Esprit du Seigneur. Alors, ayant rétabli et restauré la maison de l'Éternel, ayant remis de l'ordre, parce que si vous saviez ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel, dans ce tabernacle, que certains disent, mais c'est désuet, mais ça ne veut rien dire ce tabernacle. Eh bien, je vais vous dire, c'est tout le plan du salut qui est là. Pour ceux qui disent ça, ce sont des ignorants. Je dirais même, excusez-moi l'expression, ce sont des abrutis spirituels et non pas la révélation de Dieu. Parce que dans le tabernacle, il y a toute la marche du chrétien. Ayant rétabli toutes ces choses, ayant à nouveau rétabli le saint sacerdoce, les Lévites s'étant sanctifiés, n'est-ce pas ? Et le temple purifié de ses souillures, voici ce que va déclarer le roi. Maintenant, j'ai à cœur de faire à nouveau alliance avec l'Éternel. Vous rendez compte ce que dit ce roi? Quand auras-tu le courage de dire je veux faire à nouveau alliance avec Dieu? Tu sais ce que c'est que faire alliance? L'alliance, elle s'est faite à la Pâque. Et à la Pâque, c'est quoi? C'est la croix. Si tu veux faire à nouveau alliance avec Dieu, il faut que tu passes par la croix. Il faut que tu fasses Pessah. Il faut que Dieu passe par-dessus tes transgressions, à nouveau. Mais il n'y a qu'un lieu où tu peux déposer ton paquet. Mais c'est à Golgotha, à la croix. Crois-tu que tu peux le poser sur un pasteur ou le poser à droite ou à gauche ou sur une église ou dans l'autre église? Pas du tout. Tu te trompes. C'est pour ça que tu piétines. C'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pour ça que tu dis, mais est-ce que cette parole qui est là, elle est véritable? Est-ce qu'elle a une puissance pour me délivrer? Est-ce qu'elle a une puissance pour me libérer? Est-ce qu'elle a une puissance pour me pardonner cette parole? Tu mets en doute ça. Alors, l'Écriture te répond, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint pour quoi faire? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Et cette année, c'est encore une année de grâce pour nous. Tant que le Seigneur n'est pas de retour pour nous prendre, c'est la grâce qui agit. Mais je t'en prie, cours vers la grâce. Qu'est-ce que c'est que nos problèmes? Dieu dit une parole et la chose s'accomplit. Une parole. Tu n'as pas besoin de 10 000 prières de pasteurs ou de soi-disant chrétiens. Tu as besoin que d'une parole du Seigneur pour être libéré. Une parole de Dieu. Une. Dieu commande et la chose se tient devant lui. Mais oui. On ne va pas chercher des méthodes. Même si tu les trouves dans la Bible. Mais le Dieu, notre Dieu n'est pas le Dieu des méthodes. Notre Dieu est le Dieu de l'inspiration. Il te donnera la bonne inspiration au moment où il faudra. Faire à nouveau alliance, c'est-à-dire la renouveler. Avoir à cœur de prendre un nouveau départ qui nous permettra, avec la grâce de Dieu, de le placer sur le trône de nos cœurs. Faire de Jésus-Christ la priorité des priorités dans nos vies et faire aussi de l'Église l'objet de notre chérissement. Voyez-vous, si on n'a pas cette vision-là, il nous manque quelque chose. Tu ne peux pas mépriser l'Église, même si l'Église, elle est terrestre, même si elle est imparfaite, elle est dans la volonté divine. Elle ne va pas t'opposer à la volonté divine, même si tu vois que ton frère, il est un peu tordu, prie pour lui au lieu de le critiquer, je t'en prie. Que Dieu ait de patience envers lui. Et c'est ce qui fait que le diable est heureux. Le diable, qu'est-ce qu'il aime la chair ? La chair, c'est son terrain privilégié. Le diable aime la chair. Il aime les chrétiens charnels parce que c'est avec eux qu'il va provoquer les divisions. Il craint les hommes et les femmes de l'esprit. Il les craint. J'ai à cœur, et nous voyons ce passage dans le livre des Chroniques, à 2 Chroniques 29 et verset 10, il dit ceci: maintenant, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Il a à cœur, pourquoi? Regardez verset 6. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ont détourné leur face de la maison de l'Éternel. Ils ont abandonné le Seigneur Jésus, ils ont détourné leur face de l'Église. Et lui, l'Éternel, leur a tourné le dos. Si tu tournes le dos à l'Église, et si tu t'éloignes de Jésus, Dieu va te tourner le dos. Parle à mon dos, tiens. Tu vois ce qu'il va te dire. Rien. Rien, il ne te dira rien, mon dos. Puis tu prétends toujours être chrétien ou chrétienne, parce que tu chantes, parce que tu te remues pendant que tu crois que... C'est ça qui est le symbole de ta spiritualité. Tu te trompes. Tu te trompes réellement si tu crois que c'est ça le symbole de ta spiritualité. Avoir à cœur de faire une nouvelle alliance avec Dieu. Parce que quelque part on a abandonné Dieu sur le chemin de la foi, hein, tout en nous référant à Dieu, hein, ça c'est le vrai simulacre. C'est l'idole qu'on a mis à côté. Tout en faisant référence à Dieu, et on continue à faire ce qu'on a envie, en nous réclamant de Dieu. Mais tiens, menteur. Tu es une menteuse si tu fais ça. Tu crois que tu es agréable à Dieu ? Attends-toi à rencontrer ton Dieu sur le chemin de ta vie. Tôt ou tard, tu vas le rencontrer face à face. La situation, elle sera telle que tu devras le rencontrer. Mais si tu fais une nouvelle alliance, c'est-à-dire si tu fais de Jésus la priorité de tes priorités, et si tu fais de l'Église l'objet de ton chérissement, parce qu'il nous faut aimer l'Église. Pourquoi ? Parce que Christ a aimé l'Église. Tu ne peux pas faire autrement que ça. Et surtout, ne portons pas de jugement sur les autres églises. Laissons Dieu s'en débrouiller avec. Toi, fais ce qui est agréable à Dieu et laisse Dieu faire avec le reste. Ça t'évitera de pécher avec ta langue. Alors, 2 Chroniques 29, versets 10 à 15, voilà ce que dit le roi. Maintenant, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, ne soyez pas négligents. Car c'est vous que l'Éternel a choisi, mon frère, ma sœur. Tu as reçu un appel dans le Seigneur. Tu as reçu un appel dans l'Église. Ne sois pas négligent. Ne sois pas plus spirituel que le Saint-Esprit. Ce que tu as à faire, fais-le. Parce que Dieu, la consécration de Dieu, c'est de remplir tes mains de l'œuvre de Dieu. Et tu le sais, ça. Mais tu ne peux pas servir Dieu comme tu l'entends. Tu ne peux pas servir Dieu parce que tu es au rythme de tes sentiments. Un jour, tu es bien et le lendemain, tu es mal. Et le jour où tu es mal, tu ne peux pas servir Dieu. Mais heureusement que ça ne marchait pas comme ça dans la maison de l'Éternel. Chaque fois que je suis venu, moi, en état de faiblesse dans l'Église, chaque fois que je n'avais pas envie de venir à l'Église parce qu'il y avait en moi des choses qui n'allaient pas, mais quand je suis revenu quand même dans l'Église, le jour où je n'en avais pas envie, quand je suis sorti de l'Église, j'étais renouvelé par le Seigneur. Oh, ta chair, elle te dira non, surtout pas. Il va pas. Tu es bien mieux à la maison. C'est pas comme ça qu'on va arriver, frères et sœurs. Pas comme ça. Ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour que vous vous teniez devant lui pour le servir. Il est dit verset 12, et les Lévites se levèrent. La position pour servir Dieu, c'est être debout. Ce n'est pas être assis, c'est être debout. Se lever pour l'Éternel. Ça veut dire, je rentre dans une forme d'action. Non pas que tu aies tes fesses scotchées sur une chaise, attendant tout du pasteur. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur ta vie. La lumière du Seigneur viendra sur toi. Quand tu as décidé de te mettre en mouvement, sache que l'Esprit de Dieu te conduira. Pour lequel nous avons été choisis de nous tenir debout devant la face de l'Éternel, agir avec un nouvel état d'esprit dans notre service et dans nos relations fraternelles, avoir à cœur de régler nos vies et tenir pour précieux notre appel dans l'Église. Tenir pour précieux notre appel dans l'Église. Je suis été appelé de Dieu et mon appel, eh bien, soit je le mets sous le boisseau, soit je l'éteins, soit je le ralentis, je le mets en veilleuse, parce que les circonstances de ma vie, voilà, on fait que... Mais le Seigneur t'a pas dit ça, hein. Le Seigneur t'a dit, sers-moi, et moi je m'occupe de toi. Amen. Agir. L'action. Agir. Agir avec un nouvel état d'esprit dans notre service et dans nos relations fraternelles. Avoir à cœur de régler nos vies et tenir pour précieux notre appel dans l'Église. Nous servons le Seigneur et nos frères par amour et avec amour. C'est dans ce cas-là qu'il ne faut pas être négligent. Souvenez-vous ce que Paul nous disait, le cher frère Paul, qui nous disait « Soyez dignes de l'appel dont vous avez été appelé. Et la dignité de notre appel passe par notre investissement, c'est pas grave, par notre investissement dans l'œuvre de Dieu. Je te rappelle, mon frère, ma sœur, que tu as reçu des talents de la part de Dieu. Oui ou non? Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Jésus est menteur? Est-ce qu'il t'a donné des talents? Philippe, il t'a donné des talents? Oui? Dis-le fort, Philippe. Et toi, Stéphane? Et toi, Eduardo? Et toi, Annie? Et alors? Qu'est-ce que vous faites de vos talents? Ne te cache pas derrière Françoise, toi. Jean m'a levé. Qu'est-ce que vous faites de vos talents? Ne soyez pas négligents. Agissez. Ayez à cœur. Tenez-vous debout, c'est-à-dire veillez, priez, sans jamais vous lasser. Si nous voulons à nouveau que ça fonctionne bien dans l'Église du Seigneur, il nous faut rétablir l'ordre de Dieu. Si nous voulons un temps de restauration et de réveil, parce que je le crois sincèrement dans mon cœur, et c'est plus que croire, c'est une conviction de foi en moi, c'est que malgré qu'il y ait l'apostasie dans le monde et dans certains chrétiens, je crois profondément dans mon cœur que Dieu aime l'Église d'un amour éternel et qu'il va avoir un acte de grâce encore envers son Église pour la ramener à lui. Réparer les brèches qui sont faites dans l'Église du Seigneur. Les ports de l'Église doivent être réparés. Trop de choses y ont pénétré. Il est temps de jeter dehors tous les compromis, toute tolérance du péché, dans un excès de sentimentalisme dénaturant la parole de Dieu. La foi n'est pas cet humanisme qui est issu des sentiments humains non régénérés. La restauration des principes fondamentaux qui doivent être comme des cônes inébranlables dans l'Église du Seigneur. Non, nous n'avons pas d'amour sentimental. Nous avons l'amour du Saint-Esprit, qui est un amour pur et saint, qui est un amour qui est capable de juger. Mes frères, pourquoi tu juges? Pourquoi je juge? Mais je crois que l'Écriture me dit que l'homme spirituel juge de tout. Oui ou non? Ah, pourquoi tu juges, frère? Tu vas me dire à moi pourquoi je juge. S'il y a une situation dans l'église qui ne va pas, je ne vais pas juger, moi, la situation. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, dit l'Écriture. Alors, ça, c'est d'un amour humaniste, sentimentaliste. On va s'approprier les choses avec ses sentiments non régénérés et on va essayer de faire comprendre à l'autre que tu es un cerbère, que tu es un coupeur de tête. Mais non, c'est pas comme ça que ça agit dans l'Église. Alors dites à Jésus pourquoi il a dit de mettre dehors ceux qui n'écoutent pas, s'ils sont en état de péché. Allez lui dire. Ne venez pas me le dire à moi. Allez dire au Seigneur pourquoi dans Matthieu 18 il a dit cette chose. Et venez me donner la réponse après. Hein. J'attends. Oh, frère! Quoi, frère? Bien sûr que je suis ton frère, mais ça ne peut pas m'empêcher de juger la situation. Il est temps de jeter dehors tous les compromis, toute tolérance du péché, dans un excès de sentimentalisme dénaturant la parole du Seigneur. Moi, j'en ai entendu des choses avec les chrétiens, franchement. J'ai une brochette, si vous voulez. On est en train d'écrire un deuxième livre, je peux en écrire un troisième pour vous dire tout ce que j'ai entendu dans ma vie de la part des chrétiens. La parole de Dieu nous te dit, si tu veux te marier, ne fais pas d'attelage disparate. Ne te mets pas toi qui es converti avec un inconverti, tu sais que ça ne va pas marcher l'histoire. Si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà un témoignage. Un jour, on tombe devant une chrétienne, veuve. Ok, je comprends que tu es veuve, d'accord. Elle rencontre un homme, âgé déjà, hein. C'est pas une jeune chrétienne. Allez, disons entre deux âges. Elle rencontre un homme qui n'est pas converti. Mais elle a décidé qu'elle allait le convertir. Je Je te dis, tu ne te convertis pas. Quand je me suis converti, quoi? Tu t'es converti toi? Ou c'est le Seigneur qui t'a touché? Toi, tu t'es converti toi-même? Tu sais bien qu'un mort, il ne peut pas prendre de décision de nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que l'Écriture estime qu'une personne qui n'appartient pas à Christ, elle est morte, quoique vivante. Tu es morte quand tu as l'Esprit de Dieu, mais tu vis, tu manges, tu bois, tu vas au baléar, tu fais ce que tu veux. Tu es vivant dans la chair, mais tu es mort dans l'Esprit. Et cette personne disait, je lui ai donné une Bible et il commence à la lire. Elle avait l'intention de se marier avec lui. Elle vient nous voir avec mon épouse et moi et elle nous dit, voilà, j'ai besoin de votre conseil. Dis donc, c'est une chrétienne de longue date, elle connaît la parole de long en large, en diagonale et en travers. Et avec mon épouse, on dit, mais écoute, là, il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il est la Bible qu'il appartient au Seigneur. Il dit, non, mais moi, je sais qu'il va se convertir, je le sais. Et nous, on lui a dit avec mon épouse, s'il te plaît, sœur, ne fais pas ça. Attends qu'il soit vraiment au Seigneur pour te marier. Elle n'a pas écouté, elle s'est mariée. Ok? Elle a bien fait de se marier parce que 9 mois après, elle était divorcée. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru qu'elle allait convertir cet homme. Parce qu'elle, elle était chrétienne et parce qu'elle lui avait donné une Bible. Mais tu peux avoir toutes les Bibles que tu veux chez toi. Tu peux te dire être chrétien tant que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu et que tu n'es pas que le Seigneur t'a pas attiré à lui. Tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, comment veux-tu rechercher des solutions spirituelles à ton problème si tu n'es pas né de nouveau? Comment tu veux que le Seigneur agisse en ta faveur si tu n'es pas né de nouveau? Des fois, j'entends des témoignages de gens qui, soi-disant, se sont convertis. Ils se sont convertis au Seigneur. Quand tu entends ça, tu dis, mais les malheureux, tu vois le dégât dans leur vie, tu ne vois aucun fruit en eux. Tu ne vois aucun fruit en eux. Montrez des fruits dignes de votre repentance et tu ne les vois pas, les fruits. Tu vois rien. Et quand Jésus ne voit pas le fruit sur un figuier, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Tu ne portes pas de fruits. L'Église a lentement dérivé sous l'impulsion d'une prédication qui a été diluée, une prédication sans force, adaptée à la complaisance d'un auditoire dans lequel la flamme de Dieu n'existe pas ou plus. Évacuant toute notion de péché, elle a une action lénifiante et apaisante pour les consciences à cause d'un humanisme démesuré, confondant un amour de Dieu qui n'aurait aucun lien étroit avec sa justice. C'est la dérive vers la mort. Voilà où elle est l'Église. Un évangile, un autre évangile. Un évangile, cet autre évangile, il ne passe plus par la croix. Il ne met pas en exergue, il ne met pas la lumière sur le péché, mais il met la lumière sur le bien d'un bon confort spirituel dans lequel tu n'es pas trop remué. Il faut que tu dormes, c'est bien. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie, frères et sœurs. Il y a la vie. Le seul vrai remède, c'est la prédication du véritable évangile dans toute sa simplicité et dans toute sa force. Cet évangile qui a le pouvoir de nous faire regarder dans le miroir de la parole pour nous examiner et nous amener à une notion élevée de la sainteté de Dieu. Voilà le problème. Une notion élevée de la sainteté de Dieu, là est le véritable problème. On veut bien suivre Dieu en évitant de vivre une marche sainte avec le Seigneur. Là est le véritable problème. Et beaucoup chutent à cause de ça. Ils chutent, non pas qu'ils retournent dans le monde, mais ils chutent, ils ont des preuves en épreuve. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent de Dieu le remède, alors qu'eux-mêmes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est ça le problème. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ton problème, il ne pourra pas disparaître. Si tu n'as pas remis vraiment ton cœur au Seigneur, si le Seigneur ne t'a pas attiré vers lui et que tu n'es pas né de nouveau, comment veux-tu que le Seigneur règle ton problème ? Ce n'est pas les méthodes de l'Église qui t'affranchiront. Même si le Seigneur se sert de l'Église, mais ce n'est pas l'Église qui t'affranchira, c'est le Seigneur. C'est moi qui délivre pour l'amour de mon nom, dit le Seigneur. C'est moi qui vous délivre. C'est moi qui ai payé la rançon pour l'amour de mon nom, à cause de mon nom. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui veut être agréable au Seigneur et qui mène une vie d'intégrité et de fidélité. Oh, le mot intégrité aujourd'hui, il est passé à la poubelle. L'intégrité et fidélité. C'est deux choses dans lesquelles Dieu se plaît. La fidélité et l'intégrité du cœur. Ce sont des notions que l'Église a évacuées. Aussi, nous voyons le mauvais état de nos églises. Il faut être clair. Hein? Où que tu iras, tu verras. Des fois, tu ne comprends rien. Tu sors d'une église, tu n'as rien compris de ce qui s'est passé dedans. On anime l'église avec des méthodes d'hommes. Mais moi, ce que je sais, c'est que la seule méthode qui est agréable à Dieu, c'est que l'église soit animée du Saint-Esprit. C'est tout ce que je connais. C'est tout. Le reste, je ne veux pas entendre. Cet évangile qui a le pouvoir de nous faire regarder dans le miroir de la parole pour nous examiner. Regardez, David, qui était un homme quand même, qui avait réglé sa vie malgré qu'il ait fauté. David a fauté. Il était de la même nature que nous, mais il a fauté, David. Pourtant, à un moment donné de sa vie, après avoir confessé son péché, après avoir fait ce qu'il fallait devant la face de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, il disait ceci. Qu'est-ce que disait le Saint-Esprit ? Il disait à David, « Tant que je me suis tu, ta main s'apesantissait sur moi, mes os se desséchaient, j'étais en train de mourir. Mais j'ai confessé mes péchés à l'Éternel. J'ai avoué mes transgressions à l'Éternel. Et Dieu l'a libéré. Dieu l'a libéré. Si les brèches des portes du temple ont été réparées, il est nécessaire que les brèches qui ont été faites dans les temples vivants que nous sommes le soient aussi, jeter dehors toute souillure de nos vies et refermer une fois pour toutes les portes afin de laisser toute la place au Saint-Esprit de Dieu. Une fois que tu as jeté dehors toutes les souillures, tu fermes la porte et tu te gardes.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.